Bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'émission Regards Croisés avec Arlette Farah et...
Et Fulgence Bleu.
Bonjour Fulgence.
Bonjour Arlette.
Alors qu'en est-il de cette belle émission aujourd'hui ?
Oui, on va parler de la grande exposition de Amers Atatürk à l'Écomusée du Fiers-Mondes avec la présence du directeur Éric Giroux qui est directeur responsable de la recherche et des collections. Des détails un peu plus tard. Et en deuxième partie de l'émission, Arlette.
En deuxième partie, on va faire, on va parler du carnaval des animaux de Saint-Saëns. C'est Isolde Lagacé, qui est directrice générale et artistique de la Fondation Arte Musica, qui va être avec nous pour nous parler de ce qui va se passer à la salle Bourgie. Restez avec nous.
Voilà, on va tout de suite en musique comme d'habitude.
Oui.
Avec le groupe réunionnais au Jean, au Miss Weekend, I Am Not. C'est un groupe réunionnais. Normalement, en réunion là-bas, c'est la musique Mayola, c'est le style bien. Bon, ouais. Merci à Maurice de nous avoir fait découvrir ce groupe qui a ce style. C'est du lundi, si je crois pas bien. Bien, ouais, ça sonne bien aussi. Alors là, on a déjà notre invité au téléphone. Éric Giroux, qui est le directeur responsable de la recherche et des collections. Il s'agit de l'exposition de Amers Atatürk à l'Écomusée du Fiers-Mondes, qui va nous parler un peu de cette, cette exposition. Bonjour, Monsieur Éric Giraud.
Bonjour.
Comment
Bonjour,
allez-vous?
Bonjour, Monsieur
Giraud. Ça va bien?
Oui, ça va bien. Merci à vous.
Oui, oui, tout à fait.
Avec cette belle journée de jeudi, hein?
Oui.
Alors, on va parler avant de rentrer dans le vif du sujet. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un écomusée?
En fait, un écomusée, c'est un concept assez simple qui a été développé surtout dans les années 70.
Oui.
C'est que c'est un musée, plutôt que d'être uniquement un bâtiment avec une collection, c'est un musée qui s'intéresse à un territoire particulier.
Oui.
Donc, d'où le préfixe éco pour l'environnement immédiat du musée.
Mm-hmm.
Donc, dans notre cas, l'écomusée du Fiermont s'intéresse au quartier Centre-Sud, à sa population, à son histoire, à son patrimoine.
Oui, à son patrimoine, voilà. Écomusée du Fiermont, ça aussi, pourquoi le Fiermont?
En fait, la légende veut qu'au moment où l'institution a été créée,
oui,
au tout début des années 1980,
uh-huh,
ben, le quartier Centre-Sud avait mauvaise presse à l'époque. C'était un quartier qui était perçu comme défavorisé, tout ça. Alors, il semblerait qu'une personne qui a été impliquée dans la création du musée, qui était un résident du quartier, aurait dit « Ben, les gens nous prennent pour le tiers-monde, mais on va leur montrer qu'on est du fier-monde. »
Ah, ça j'adore.
C'est la légende qui accompagne ce terme-là.
J'adore cette légende-là.
Ouais.
Alors, on revient à la grande exposition qui a commencé depuis le 10 février et qui va prendre fin le 18 avril. Ça dit, ça va jusqu'à la semaine prochaine, quoi.
Oui, tout à fait.
Alors, quel est l'achalandage? Vous êtes satisfait?
Oui, ben depuis qu'on est réouvert, effectivement, il y a quand même un bon achalandage. On est content. On est content qu'il y ait des gens qui visitent le musée. Ça fait de la vie dans ce grand bâtiment-là.
Oui, oui. C'est un grand bâtiment que je connais,
oui,
très bien. J'ai,
oui,
assisté à plusieurs événements là-bas, d'ailleurs.
Bon.
Oui. Et comme dirait le grand chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador depuis 1992, Ghislain Picard, la réconciliation descend dans la rue. Je parle,
ouais,
de ça parce que c'est la rue qui a été renommée de Amers à Atadegen.
C'est ça.
Pourquoi? Qui a eu l'idée? Quelles sont les revendications qui ont été...
En fait, le général Amherst,
ouais,
disons que c'est pas quelqu'un qui a un historique très glorieux.
C'est pas, ouais.
Bon, ça a été un chef militaire important. Bon, c'est lui qui a gagné, qui a défait les Français, en fait, qui a mis un terme à la Nouvelle-France.
Oui.
Mais par la suite, il a été en charge de certaines campagnes menées contre certains peuples autochtones,
ouais,
dont les Outaouais. Et il aurait... était un des premiers à utiliser des armes bactériologiques. En fait, il aurait infecté des couvertures de laine de la petite vérole qu'il aurait distribué ensuite.
C'est lui qui est derrière ça.
Oui.
Mm-hmm.
Et donc, c'était comme un geste assez particulier.
Oui.
À son époque, il était perçu comme un héros militaire, mais avec le temps, avec le recul historique...
On a tout découvert.
C'est ça. Les gens ont remis en question un petit peu cet héritage-là et ont cru bon réfléchir à la possibilité de changer le nom de la rue Amherst qui faisait écho un peu à sa carrière. Mais tout ça a été remis en question il y a depuis quelques années, je dirais. Ça s'est accéléré lorsque M. Denis Coderre était maire de Montréal et puis lorsque Valérie Plante a pris le pouvoir, ben elle a amorcé la démarche concrète en conviant un certain nombre de représentants des premiers peuples à participer à cette réflexion-là et à trouver un nouveau nom pour la rue.
Oui, oui, ouais, ouais, ouais. Je dis bravo à tous ceux qui vivent dans cette région, cette partie de Montréal. Hein. C'est un quartier vivant quand même. Je passe là souvent,
oui,
vraiment.
Oui.
Puis je suis allé plusieurs fois à l'écomusée du Fiermonde.
Oui.
Quand je suis arrivé ici, j'ai entendu ce nom-là la première fois. J'ai dit, mais pourquoi Fiermonde? Alors, pour ceux qui n'ont pas encore fait le petit saut là-bas, à cette exposition, ça continue jusqu'au 18 avril.
Oui.
Ça a commencé le 10 février. Allez-y voir la belle histoire. Et puis, bon, je pense bien que à la fin, on va avoir un bilan. Vous allez être satisfait du bilan de cette grande exposition. Moi, j'appelle ça la grande exposition. Hein, parce que là, vraiment, de passer, ça fait un an que la rue a été renommée.
Oui. Oui, ben en fait, c'est ça exactement. L'annonce a été faite en 2019 lors de la journée annuelle des Premières Nations.
Oui.
Et donc, c'était le 19 juin 2019, le 21 juin 2019, pardon.
Oui.
Et donc, nous, un an plus tard, on a souhaité souligner cet événement-là en faisant cette exposition-là, qui était à l'origine censée débuter le 21 juin 2020. Mais
oui,
bon, avec tout le contexte qu'on a connu, ben on a été obligé de reporter ça à quelques reprises.
Oui.
Et puis finalement, lorsqu'on a réouvert en février, l'exposition était prête à être présentée.
Oui, oui. Bravo. Bravo. Et Atadegen, qui a Une signification, ce qui signifie frère et sœur.
Exactement.
Wow. Ça, c'est en langue mohawk.
Oui.
Le toponyme mohawk. Wow.
Oui, oui.
Enfin, j'ai appris quelque chose, hein, ça permet quand même. Et vous, depuis quand vous êtes à la tête de l'écomusée du Fier Monde?
Ben, moi, je participe à l'écomusée depuis 1996, mais je suis devenu directeur le 1er avril 2020.
Oui.
Donc,
oh.
Ça fait un an.
Oh, ça fait, oui, 2020, ouais. Ça fait un an. Donc, ouais. Ça fait, mais ça fait, c'est votre maison, on peut dire.
Oui, oui, tout à fait.
C'est votre maison. Oui. Ouh, ouais, ça fait pas deux jours. Alors, bon, en dehors de ça, bon, qu'est-ce qu'on dit? Il y a des expositions, comment dirais-je, permanentes quand même.
Oui.
Oui, parlez-nous un peu de ça. Quel genre d'exposition qui se passe là-bas, ben, d'une manière permanente?
L'exposition permanente de l'écomusée s'appelle « À cœur de jour, grandeur et misère d'un quartier populaire ».
Oui.
Et donc, elle propose un survol historique de l'histoire du Centre-Sud.
Oui.
De la période industrielle, parce que c'est un espace urbain qui a d'abord été marqué par l'industrialisation de Montréal,
oui.
Par la vie des familles ouvrières et tout ça,
oui.
Qui a connu une forte désindustrialisation après la Deuxième Guerre mondiale, qui est devenu un quartier populaire, mais aujourd'hui un quartier très diversifié avec beaucoup, beaucoup d'animation, beaucoup de vie.
Oui.
Donc, c'est le survol qu'on propose. Et à cela, ben, on ajoute des expositions temporaires là, qui viennent aborder des points plus spécifiques de l'histoire.
Comme cette exposition qui va jusqu'au 18 avril. Là.
Exactement. Oui.
Oui, oui. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est situé au 2050 rue Atadeken.
C'est ça.
Voilà. Anciennement...
Amherst.
Ouais. Voilà, c'est l'Ontario. Je passe là souvent, je suis déjà allé là quelques fois. Ouais. Et puis, bon, ben, cette équipe, les gens, comment dirais-je, les tableaux, qu'est-ce qui est exposé là-bas, cette exposition?
Ben, en fait, c'est surtout des photos, quelques photos d'archives, quelques photos plus contemporaines qui proposent différentes vues de la rue Amherst,
oui.
Quelques objets, quelques documents d'archives également,
mmh.
Et quelques œuvres autochtones aussi, parce qu'on a souhaité justement intégrer quelques œuvres autochtones au projet, justement pour souligner le côté frère et sœur du changement du nom de la rue.
Puisqu'on parle de réconciliation aussi, hein, dans
oui.
Tout ça. On va revenir sur ça. On va écouter une autre pièce musicale et puis on va attaquer un peu le côté réconciliation. Comment est-ce que vous voyez l'évolution en dehors de cette exposition?
Parfait.
Voilà. On va écouter Gaïance, Fruta Gogoia.
Eu sou uma fruta gogoia. Eu sou uma moça. Eu sou calunga de louça. Eu sou uma joia. Eu sou a chuva que moia. Que refresca bem. Eu sou o balanço do trem. Carreira de Troia. Eu sou a tirana boia. Eu sou o mar. Samba que eu ensaiar. Mestre, não olha. Thank you.
était au Brésil avec Gaïans Fruta Gogoia. On sentait même le portugais brésilien comme ça. Voilà, on va continuer avec notre invité Éric Giroux, qui est le directeur, bien sûr, voilà, de ce musée. Alors, c'est sa maison, c'est pas depuis, voilà, le directeur responsable de la recherche et des collections, il est là depuis fond. On voit, comme je disais avant la petite pièce musicale, Monsieur Giroux, cette histoire de réconciliation, comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous percevez ça, vous, de l'intérieur?
Ben, en fait, dans l'exposition, la dernière section s'appelle justement Frères et Sœurs et revient sur le choix de ce toponyme-là pour la rue.
Oui.
Et en fait, les questions qui sont soulevées, c'est on peut se demander si le changement de nom de rue est le début de quelque chose et non la fin d'un processus.
Oui.
C'est un geste qui a une forte symbolique, la volonté d'ouvrir les relations, de parler à nos frères et nos sœurs, de mieux les connaître. Mais en même temps, il faut reconnaître que les conditions dans lesquelles ils vivent ne sont pas acceptables dans un pays comme le nôtre, dans un coin dans notre contexte actuel.
Oui.
Et on soulève un certain nombre de questions par rapport au fait qu'ils sont interpellés beaucoup plus souvent que nous par les forces policières, par le fait que, d'un point de vue socio-économique, leurs conditions sont de beaucoup inférieures aux nôtres.
Oui.
Alors, on peut changer le nom d'une rue, mais il faut que d'autres gestes suivent pour qu'on permette à ces communautés-là d'accéder à un meilleur niveau de vie.
Mais c'est un pas quand même.
Oui.
En changeant le nom de rue.
Oui, oui, oui. Tout à fait. C'est un pas, mais il faut continuer. C'est pas la fin du processus, c'est peut-être le début d'une relation qui doit se développer puis sur laquelle on doit travailler.
Oui, oui. Surtout que celui dont le nom, la rue portait le nom, n'avait pas un passé glorieux.
Exactement.
Voilà.
Oui.
Ça, c'est vraiment. Comment est-ce que vous avez pu mettre la main sur les œuvres des artistes autochtones? Ça a été difficile ou bien ça a été facile de les approcher pour pouvoir. Vous leur dites qu'ils vont faire partie de l'exposition.
En fait, il y a comme un appel assez large qui a été lancé pendant la préparation de l'exposition.
Oui.
Mais lorsque le confinement est arrivé et la pandémie, tout ça, ça a compliqué toutes les choses parce que tout le monde, les priorités de tout le monde ont changé de place.
C'est ça.
Donc, il y a certains artistes qui ont poursuivi la démarche avec nous, mais il y en a d'autres qui étaient comme moins à l'aise et ne croyaient pas tout à fait à la réalisation de l'exposition. Alors,
qui ont désisté par la suite?
Ben, je pense que les gens ont été comme vraiment happés par un événement dont on ne soupçonnait pas l'ampleur au début. Là. Mais donc, c'était plus compliqué d'aller chercher les œuvres parce que souvent les œuvres provenaient de villages plus éloignés et tout ça. Donc, ça a compliqué un petit peu les choses. Alors, il y a peut-être moins d'œuvres qu'on a réussi à aller chercher à ce moment-là, mais c'est pas le propre des artistes autochtones, puisque même nous, ici, ce qu'on avait souhaité au départ, c'est mobiliser beaucoup d'occupants sur la rue Amherst pour participer à ce projet-là, donc des commerçants et tout ça, qui auraient pu nous alimenter avec des photos d'archives de leur commerce, des choses comme ça. Et il y a eu comme une baisse de participation là au moment où la pandémie est arrivée, parce que justement les gens avaient d'autres préoccupations qui étaient liées à la survie même de leur commerce et tout ça, donc ça a été un peu compliqué de poursuivre ce projet-là, mais on a quand même tenu à le mener à terme.
Oui, oui, nous sommes tous dans le même bateau. Moi, je dirais bien, si je peux me permettre comme ça rapidement, j'ai pas l'habitude de le dire, mais ce maudit virus.
Oui,
voilà.
Effectivement.
Oui.
Ça fait, Monsieur Giroux, ça fait combien de temps que vous êtes au musée, vous?
Ben, moi, j'ai commencé ici en 1996.
Ah oui, on peut dire que... oui, ça fait un moment que vous connaissez bien.
Oui, oui, oui.
D'accord.
Donc, je travaille depuis ce temps-là sur le quartier, donc j'ai approfondi les connaissances avec le temps.
Je comprends. Je comprends pourquoi vous en parlez aussi bien.
Oui.
Qu'est-ce qui a fait, si vous connaissez un peu l'histoire de ce quartier, qu'est-ce qui a fait que ce quartier, qui était un quartier bien industrialisé, qui est tombé comme ça tout d'un coup, pourquoi est-ce que l'industrie qui était là, c'était pour produire du matériel pour la Deuxième Guerre, la guerre mondiale, ou bien après, pourquoi c'est tombé tout d'un coup comme ça?
Ben, en fait, l'industrialisation a débuté dans le quartier autour du milieu du 19e siècle.
Oui.
Il y avait vraiment toutes sortes d'industries dans le quartier. Ici, des entreprises de transformation alimentaire,
oui,
de l'industrie légère liée aux vêtements, à la chaussure, etc., puis de l'industrie lourde aussi.
Oui.
Donc, il y avait toute une infrastructure assez diversifiée.
Oui, je pour compléter ce que vous dites, là, ça continuait jusqu'à Hochelaga et Maisonneuve.
Oui,
qui était un quartier très riche aussi. Hein. Il y a beaucoup d'industries.
Oui.
Il y a un chauffeur de taxi qui m'a donné cette histoire brève là, en 10 minutes de parcours.
Oui.
Oui, je ne connaissais pas que Hochelaga. Je ne savais pas que c'était un quartier très, très, très riche. Il y avait beaucoup d'industries.
Oui. En fait, c'est ça. Comme les deux quartiers sont à proximité des installations du port, ben, au 19e siècle et au début du 20e siècle, c'est un avantage. On est près des infrastructures de transport qui sont les plus importantes à l'époque.
Oui.
Il y avait des voies ferrées également.
Mmh.
Mais après la Deuxième Guerre mondiale, ben, la question des transports va se modifier beaucoup.
Oui.
Ça va être surtout le transport autoroutier qui va prendre le relais, qui va devenir un enjeu important. Et donc, beaucoup d'entreprises vont déménager, vont aller dans des parcs industriels qui vont se développer le long des réseaux autoroutiers, vont s'éloigner du port. De toute façon, le port de Montréal va décliner après la Deuxième Guerre mondiale aussi, avec l'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent en 1959.
Oui.
Donc, il y a comme plusieurs entreprises qui vont quitter le quartier, d'autres vont simplement fermer leurs portes parce que les productions vont être déplacées dans les pays en voie de développement. On peut penser à la chaussure, aux vêtements, etc.
Oui.
Donc, il y a beaucoup d'emplois qui disparaissent dans un quartier comme ici. La ville va se redévelopper aussi après la guerre. On va construire des nouveaux quartiers et tout ça. Donc, il y a un déclin de la population aussi. Et il y aura des grands travaux dans ce quartier-ci, comme par exemple la construction de Radio-Canada.
Oui.
Ben, 5000 personnes vont être expropriées là, pour construire la grande tour et les grands stationnements et tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travaux aussi qui vont entraîner le départ d'une partie de la population. Donc, peu à peu, l'infrastructure sociale va se désagréger un peu.
Oui.
Mais les gens vont se reprendre en main dans les années 60-70, vont créer des organismes communautaires. Donc, tout un nouveau tissu social qui va permettre aux gens de se mobiliser, de s'organiser, puis de ramener une certaine qualité de vie dans ce quartier-là.
Wow. Merci beaucoup, M. Éric Giraud.
Ouais.
Voilà, vraiment, c'est une belle histoire. Pour ceux qui n'ont pas. Voilà, ça c'est vraiment. Directeur responsable de la recherche et des collections de l'Écomusée du Tiers-Monde. Musée, c'est un musée d'histoire et musée citoyen, on peut le dire. Voilà.
C'est ça.
Ouais, puis en plus, il est beau.
Ouais. Ouais. Allez-y, c'est jusqu'au 18 avril.
Oui, c'est ça.
Dans un quartier que j'apprécie beaucoup. Voilà, on est non loin d'Hélène, nous aussi. Hein.
Oui.
Ouais, c'est non loin d'ici, hein.
Oui, oui.
Ah, mais ça fait quelques années que je le connais, que j'y suis allé, ouais, déjà.
La radio n'est pas loin, de là, hein, c'est à pied. C'est
avant la radio.
Alors, allez-y, là, c'est le premier anniversaire, c'est l'occasion du premier anniversaire du changement de nom, bien sûr, devenu de Amers à Atadeken.
Oui.
Je le prononce bien, Atadeken.
C'est comme ça que je le prononce aussi. Donc, je ne saurais pas vous dire si c'est exactement ça, mais bon, nous, on s'entend là-dessus.
Frères et sœurs.
Oui.
Voilà, merci beaucoup à vous.
C'est plaisir.
Un bel expo. Merci. Et puis, bon, ben moi, je ne suis pas encore passé, mais je vais passer avant le 18 quand même.
Parfait.
Allez, merci beaucoup à vous et bonne soirée.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.
I'll grow a pearl. This grain of sand got under my skin. If I evolve, revolve and spin, I'll grow a pearl. A string of pearls. Each one a story under my skin. Would not give up, did not give in. A string of pearls. Shimmering silken in their glow. System tougher than bone. I've been through all this and I can show my string of pearls turning swirls of all I've known. Thank you.
got under my skin. If I evolve, revolve and spin, I'll grow a pearl, a string of pearls. Each one a story under my skin. Would not give up, did not give in, a string of pearls. A shimmering silken in the glow. Little planet system tougher than bone.
Belle Vostek, String of Pearls.
C'est trop beau. Alors, restez avec nous. Dans un instant, on reçoit Isolde Lagacé, qui est directrice générale artistique de la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal et d'Arte Musica. Alors, là encore, on va apprendre plein de choses. À tout de suite.
Et Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
Hello.
Vous venez d'écouter le groupe de l'Estran qui nous chantait Sur la mer. Et maintenant, nous sommes en ligne avec la directrice générale et artistique de la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal et d'Arte Musica, Isolde Lagacé. Bonjour Isolde.
Bonjour, comment allez-vous?
Bonjour Isolde.
Mais ça va bien, mais j'ai envie de demander comment se porte Isolde et la salle Bourgie, puisque l'un ne va jamais sans l'autre.
Oui, écoutez, Isolde est de nature plutôt optimiste, gaie, joyeuse, motivée,
oui.
Etc. Donc Isolde se porte très bien. Évidemment, le temps finit par faire son œuvre et les choses difficiles, évidemment, se sont accumulées depuis plus de temps. Là, on vient d'apprendre, il y a 15 minutes à peine, que le couvre-feu à Montréal, dès dimanche, sera de nouveau à 20h.
Alors, d'accord. Outre le...
c'est pas moi qui vais vous l'annoncer, là, c'est le premier ministre Legault qui nous dit ça il y a 15 minutes. Et évidemment, outre le fait que j'aime bien me promener quand il fait beau dehors au début du printemps, ça veut dire évidemment que nos concerts qui sont prévus en soirée, on doit changer l'heure. Alors, il y a toujours quelque chose à changer. Là, la semaine dernière, il y a quelques jours, on a dû changer les plans de salle parce qu'il y a une petite annonce qui est passée. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, bien sûr, très bien. Je vous écoute religieusement, j'ai envie de dire.
Mon écran est noir et j'ai un nouveau téléphone. J'espérais que la technologie se mettait bien de la partie. Donc, mardi, on a appris que la distance entre le public devait maintenant être de 2 mètres. Alors qu'elle avait été de 1,5 mètres. Ça semble peut-être mineur, mais honnêtement...
ça prend une place, hein?
Ça devient majeur parce que c'est la distance non seulement latérale de droite à gauche, mais c'est la distance de devant à derrière. Donc, ça fait qu'on a perdu une rangée et que tous ces gens qui avaient acheté pour vendredi, parce que c'était entre guillemets complet
à 20%. C'est ce que j'ai vu.
Alors, tout d'un coup, il y a une rangée qui disparaît, puis tout d'un coup, il y a 30 personnes qui ne peuvent plus entrer dans la salle. Ça a l'air de rien, mais nous, pour 30 personnes, on se démène corps et âme pour voir qu'est-ce qu'on peut faire.
Bien sûr.
Alors ça, c'était mardi. Là, c'est les heures qui vont devoir changer parce que je ne peux pas commencer un concert à 19h et puis à 20h, que le concert soit fini, qu'on ait fermé la salle, qu'on ait tout rangé et qu'on soit rentré chez nous en métro, en autobus ou en auto, c'est impossible.
Non, même pas en rêve.
Oui, c'est ça. Donc, j'en ris plutôt que d'en pleurer.
Ben oui.
Mais évidemment, c'est un peu les tuiles qui s'accumulent. Évidemment, on est content que nos salles soient ouvertes. Même pour 95 personnes plutôt que 500 personnes. Évidemment, on est content que les musiciens puissent retrouver leur public, que le public puisse retrouver l'activité live, mais en même temps, il faut vraiment, vraiment vouloir tenir le fort envers et contre tous pour continuer, je vais vous dire bien franchement.
Oui, ça je veux bien le croire, je suis bien d'accord avec vous.
Oui, c'est ça. Mais on continue. Et puis, honnêtement, j'ai pour mon dire que qui suis-je pour me plaindre? Je pense qu'on est dans un milieu quand même exceptionnel. On est quand même dans un pays qui a énormément d'atouts. Et puis, faut faire avec. C'est une situation mondiale. Hein. Évidemment, on se comprend parce qu'on est tous dans le même bateau. Alors, voilà, c'est ça.
Mais c'est du bonheur quand on arrive à aller... Moi, ça m'est arrivé d'aller à deux spectacles en salle et même avec moins de monde, est-ce que je compatis pour les comédiens, pour les artistes, pour ceux qui sont sur la scène et puis pour ceux qui tiennent ces théâtres et qui ont des choses à faire vivre. Mais en même temps, pour nous qui venons nous installer, je peux vous dire que je me suis offert deux purs moments de bonheur de pouvoir enfin être en contact avec et de pouvoir applaudir et de pouvoir ressentir et de pouvoir tout ça.
Je vous comprends très bien parce que vraiment, c'est notre vie et puis c'est ce qu'on fait, c'est de mettre en contact le public et les musiciens. Et vous savez, les musiciens nous le disent, puis c'est que je dis musicien, ça peut être danseur, ça peut être comédien, en fait,
n'importe
quel artiste qui monte sur scène. Déjà, la différence, et je pense que je vous l'avais dit la dernière fois, parce que j'ai l'impression que ça fait pas très longtemps que j'ai parlé, mais la différence entre une salle vide et une salle avec une personne, c'est déjà quelque chose. Parce que l'atmosphère a complètement changé aussitôt qu'une personne nous écoute. Alors, c'est sûr que rendu à 100 personnes, bon, bien sûr, c'est clairsemé dans la salle, mais honnêtement, il y a une vraie communion de personnes qui partagent quelque chose.
Si vous saviez à quel point c'est le mot juste, une vraie communion, c'est le mot qui m'est venu et je suis bien d'accord avec ça là-dessus.
Voilà.
Et
donc, on continue.
C'est ce que ça donne. Ah oui.
Envers et contre tout, parce que c'est sûr que on ne peut pas ne pas penser, est-ce qu'on continue quand même? Est-ce que ça vaut la peine?
Oui.
On se pose la question, mais en se la posant, on répond soi-même à la question. C'est la réponse, c'est oui.
Oui, bien sûr qu'on continue, pour tous d'ailleurs, pour ceux qui sont sur la scène, comme pour ceux
qui veulent être là.
Et croyez-moi, on veut être là. Alors, avant qu'on parle du carnaval des animaux, puis qu'on passe un tout petit bout de musique, vraiment tout petit, parce qu'on ne peut pas tout faire, on va parler plus longtemps avec vous. Fulgence a une question pour vous. Par contre, on va passer le petit morceau du carnaval des animaux avant que vous répondiez. Donc, il vous pose sa question et vous aurez 2 minutes pour répondre après.
Non,
d'accord.
C'est pas une question. Je voulais simplement ajouter quelque chose. On a beau pu avoir les spectacles virtuels, mais c'est comme le jour et la nuit quand on ne peut pas comparer avec la présentielle.
Mais voilà. Il y a une forme d'émotion qui est quand on est dans la salle.
Quand on est dans la salle, moi, je vis de la...
Moi, je peux avoir les larmes aux yeux quand je suis dans la salle. Je les ai moins quand je suis devant mon écran, même si j'apprécie beaucoup.
Mais ma question serait, avant de passer à la musique, comme disait Arlette, qu'est-ce que vous avez fait des personnes qui ont été... Est-ce qu'elles ont été supprimées puisque la distanciation a provoqué une suppression de place? Comment est-ce que vous avez dealé avec ça?
Avant que Isolde te réponde très vite, tout de suite, on va écouter un tout petit morceau, vraiment très léger. Voilà. Allons-y. Alors, Isolde, c'était juste un tout petit bout de l'introduction. Hein. C'est beaucoup plus long et beaucoup plus merveilleux, mais bon, il faut aller l'entendre. Maintenant, répondez donc à la question de Fulgence qui vous demandait, ces personnes-là que vous êtes obligées de supprimer dans la salle, comment ça se passe?
Écoutez, je peux bien répondre, mais c'est des tracas administratifs.
Ah, d'accord.
Non, aucun intérêt. Vous savez, il y a toujours, je vous dirais, dans une salle de concert, depuis que je suis petite, je l'ai remarqué, mais je l'ai par les chiffres et les statistiques, il y a toujours 5 à 10 % des gens qui, quelle que soit la journée, la température, l'occasion, ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Alors déjà, on
essaie cette
personne. Bon, alors, tout ça se joue sur la dernière minute. Bon. probablement qu'il y aura certaines personnes qui pourront pas rentrer. Alors, le concert dont on parle, là, où on s'est soudainement trouvé avec trop de personnes, parce que c'est vendredi, puis qu'on l'a su mardi, puis que c'était déjà tout complet et tout.
Mais c'est que, on m'a dit, notre technicien m'a fait savoir que c'était à partir de dimanche que c'était remis à 8 heures, donc...
Ah oui, mais ça, ça n'a rien à voir avec le fait de 2 mètres de distanciation. C'est un problème complètement différent.
D'accord.
Le fait qu'on ne puisse pas accueillir les 30 personnes, c'est à cause de la distanciation qui a été annoncée mercredi pour jeudi.
Ah oui, oui, d'accord.
On parle du concert de demain. De toute façon, comme je vous dis, c'est des technicalités, c'est des trucs administratifs. On va évidemment offrir le lien parce que ces concerts-là sont en salle, mais ils sont également web diffusés. Alors ça, ça a été la nouveauté pendant la pandémie, c'est qu'on s'est mis à capter nos concerts et à les diffuser sur le web. Donc, évidemment, les gens qui ne pourront pas être en salle, ils auront gratuitement un lien pour le visionner. On leur offre un billet pour un autre concert. Vous savez,
maintenant,
on fait ce qu'on peut.
Voilà, maintenant, partons sur... prenons le sourire, reprenons l'énergie d'Isolde qui, elle, est heureuse et parlons du carnaval des animaux.
Alors, écoutez, le carnaval des animaux, il s'inscrit dans un mini-festival qui commence justement demain et qui est présenté grâce à notre association avec une organisation européenne qui s'appelle le Palazzetto Bruzzani.
Ah, vous le dites bien mieux que moi. Je l'avais noté, mais j'ai attendu que vous le prononciez.
C'est l'oreille musicale, alors. Mais alors, ce festival, ce centre, il est basé à Venise, mais étonnamment, et je ne sais pas trop pourquoi, mais le hasard a fait qu'il est basé à Venise, mais qu'il se spécialise dans le répertoire romantique français. Donc, la musique du grand 19e siècle français. Et l'année 2021 marque le centenaire du décès de Camille Saint-Saëns. Alors, Bruzzani a décidé tout simplement de mettre Camille Saint-Saëns à l'honneur, ce qui est tout à fait...
D'accord, c'est 100
ans. Dans le fond, c'est ce qui s'imposait. Parce que c'est quand même la mission de ce centre de musique romantique française, c'est de faire découvrir les compositeurs moins connus, mais aussi le répertoire des compositeurs plus importants, plus connus, dont Camille Saint-Saëns fait partie. Et vous savez, je me suis mise à réfléchir sur Camille Saint-Saëns. Évidemment, on connaît son nom très bien dans l'histoire de la musique. Et il a une notoriété absolument internationale grâce à certaines de ses œuvres, dont le carnaval
des animaux. Ah ben oui, parce qu'il a été... Il a été mis, si je puis me permettre, à toutes les sauces.
Oui, à toutes les sauces, absolument. Et d'ailleurs, à l'époque, il avait déjà été transcrit par des compositeurs à la fin du 19e, au début du 20e. Mais Saint-Saëns a écrit certaines œuvres qui sont restées dans le répertoire. Par exemple, la symphonie avec orgue, la danse macabre, la chanson de Dalila.
Danse macabre, un grand moment.
C'est Saint-Saëns. Alors, Saint-Saëns est connu pour ces choses-là, mais étonnamment, beaucoup du répertoire qu'il a écrit est complètement resté dans l'ombre et ce sont des répertoires qui sont souvent oubliés dans les salles de concert. Alors, ce festival nous permet non seulement de mettre à l'honneur un compositeur, mais de présenter un répertoire formidable qui n'est pas entendu régulièrement. Mais évidemment, on ne pouvait pas s'empêcher de mettre le carnaval des animaux parce qu'on a à la salle Bourget, vous le savez, une offre... famille, une offre pour tous. Et quoi de plus agréable dimanche après-midi que de présenter le carnaval des animaux une version de piano, pas une version orchestrale. Évidemment, je ne peux pas mettre un orchestre, surtout pas en temps de pandémie, sur la scène. Mais il y a une très belle version qui est très souvent jouée à deux pianos. Et on a notre duo qui s'appelle Feng Qiu. Alors, ce duo, c'est Janelle Feng et Philippe Qiu, deux pianistes montréalais qui sont absolument exceptionnels. Si vous pensez que j'ai de l'énergie, vous n'avez rien vu. Alors, Janelle et Philippe, c'est étonnant que le piano ne soit pas en miettes après, parce que vraiment, c'est électrique leur façon de jouer, et ils sont vraiment d'une gentillesse, ils sont d'une amabilité, ils sont adorables avec les jeunes, ils sont adorables avec le public en général, et donc on leur a demandé de faire notre carnaval des animaux, et on a engagé également Evelyne de la Chenelière. C'est vraiment c'est une comédienne et une dramaturge formidable. Alors elle va lire. Oui, d'accord. Et les pianistes vont jouer tous ces mouvements du lion, poule, coq, tortue, éléphant, kangourou, les poissons, etc. Donc, ça va vraiment être un petit plaisir. Vous savez que Saint-Saëns, il avait sous-titré sa partition « Grande fantaisie zoologique ».
Ah ben non, je ne savais pas.
Oui, moi non plus, je ne savais pas. C'est en lisant les notes de programme, parce que les notes de programme, dans les programmes qu'on fait, on a un musicologue qui est engagé pour les faire, elles sont toujours passionnantes. Alors, je les lis toujours avec grand intérêt. Oui. Et cette œuvre-là, elle a été créée en 1886, donc à la fin du 19e siècle. Et après quelques exécutions, Saint-Saëns, il s'est opposé à sa diffusion. Il a arrêté et les éditions papier et la diffusion de cette œuvre. Et c'est seulement après sa mort que son éditeur l'a republié. La seule chose qu'il avait permise, c'est tout de même l'utilisation du mouvement qui s'appelle le cygne pour faire la mort du cygne. Vous savez,
oui,
qu'il y a
oui.
été comme un papier
bien
pour Anna Pavlova au début du siècle. Ça, c'est resté. Mais les autres mouvements, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait contre cette œuvre. Mais en tout cas, si lui était contre, je vous dis que le public était pour.
Hein. Pour. Mais c'est bien parce que ça permet d'apprendre plein de choses. On a l'impression qu'on connaît Saint-Saëns. C'est même sans en savoir beaucoup sur lui, le Carnaval des animaux, c'est comme un classique. Enfin, c'est quelque chose que même quand on ne connaît pas, même quand on ne s'intéresse pas à cet auteur-là, on connaît ça au moins.
Vous savez, souvent les gens ne savent même pas qui est le compositeur. Ils vont dire, par exemple, la danse macabre. Oui, je connais, mais on demande c'est de qui. Est-ce qu'ils vont être capables de dire c'est de Saint-Saëns? Peut-être pas. Sanson et Dalila, la même chose. On connaît le nom de Péra, mais est-ce qu'on sait? Ah oui, c'est de Saint-Saëns. Alors, mais c'est pas grave. Ça n'a aucune importance.
Mais ça donne l'occasion de venir et puis de voir le spectacle. Alors, Isolde, qu'est-ce qui va se passer? Alors,
Alors, demain, on commence avec les musiciens de l'OSM. On a une série avec les musiciens de l'OSM depuis l'ouverture de la salle. Alors, ça fait 10 ans, hein, on a ouvert la salle en 2011. C'était notre 10e saison cette année. Très, très, très amputée, mais enfin, 10e tout de même. Et cette série avec les musiciens de l'OSM, elle était là même avant l'ouverture de la salle, pour vous dire comment notre association dure depuis longtemps. C'était Kent Nagano, de l'OSM pendant 16 ans. Et le directeur du musée à l'époque, qui s'appelait Guy Cocheval, qui est finalement retourné à Paris au musée d'Orsay, etc., qui avait eu cette idée de faire une série où on mêlait l'art visuel et la musique. Et puis bon, finalement, les directeurs ont changé tout ça, mais la série est restée. Elle n'est plus nécessairement en lien avec l'art visuel, quoiqu'elle l'ait des fois en lien avec les expositions spécifiques, mais on a continué cette série qui a beaucoup, beaucoup de succès. Et c'est toujours le vendredi à 18h30. Ça a toujours été comme ça depuis le début.
D'accord. Alors,
l'idée, c'est avant le souper, 18h30 à 19h30, toujours une heure, pas d'entracte, sans entracte. Et évidemment, eux vont présenter ce concert d'ouverture qui s'appelle Saint-Saëns, le chambriste.
D'accord.
Parce que ce qu'on présente pendant ce concert-là, c'est de la musique de chambre, évidemment, dont un septuor, donc une formation de 7 musiciens, un septuor composé d'une trompette, de 2 violons, d'un alto, d'un violoncelle, d'une contrebasse et d'un piano. Alors, assez original quand même comme instrumentation. Et c'est une suite que Saint-Saëns a écrite pour cette formation parce que souvent, ce qui arrivait, c'est que les compositeurs écrivaient une œuvre spécifiquement pour un interprète qu'ils admiraient ou qu'ils aimaient. Et dans le cas de Saint-Saëns, c'était ce trompettiste. Alors, il inclut la trompette avec les cordes et puis le piano. Donc, très hâte d'entendre ça. Je vais vous dire, bien franchement, je ne connais pas l'œuvre. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent. Et quand il y a de la trompette, en général, ben évidemment, c'est fort, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est gay, hein, c'est brillant.
Oui.
Alors avec le piano, les cordes et la trompette, je trouve que c'est un très beau mélange pour ouvrir un concert. Et ensuite, il y aura le trio pour piano, violon et violoncelle de Saint-Saëns, une œuvre assez longue, en 5 mouvements, qui est vraiment dans la plus pure tradition de musique de chambre, des trios avec piano. C'est toujours des œuvres vraiment magnifiques. Et honnêtement, quand on aime quelque chose, on peut l'écouter tous les jours. Alors, quand on ne le connaît pas, de le découvrir, c'est vraiment un bonheur. Ça va être sûrement très, très, très agréable.
Et après, on va arriver au dimanche, après-midi, qu'on va pouvoir voir, parce que on va terminer ça là-dessus.
Oui, comme je vous ai dit, le concert, malheureusement, on ne peut plus aller en salle pour l'OSM parce que les billets sont vendus, mais il est quand même web diffusé. Si on va à salbourgie.ca, on peut acheter les liens pour le concert en ligne.
D'accord.
Le carnaval des animaux, lui, il n'est que pour les gens en salle. Celui-là, il n'est pas web diffusé. Et
parce
si vous voulez.
Il est à 13h, c'est ça?
Non, c'est à 14h30.
14h, ah, pardon.
14h30, au milieu
14h30,
de la
d'accord.
Et ça, c'est les enfants sont bienvenus, les jeunes, les grands-mamans, n'importe qui, vraiment.
Et
c'est
ceux qui ont gardé leur cœur d'enfant.
Et ceux qui ont gardé leur cœur d'enfant. C'est toujours le plus beau public, en effet. Et ça, j'ai encore de la place, alors ça,
d'accord.
Ça va aller très bien. Et la semaine qui suit, la semaine prochaine, donc le mercredi et le jeudi, on a un quintet à vent que j'aime beaucoup, une formation qui s'appelle Pentaèdre. Alors, d'accord. C'est plus hautbois, clarinette, basson et cor. Et eux, ils sont vraiment très créatifs, très intéressés par toutes sortes de répertoires, du répertoire original pour leur formation, mais aussi des transcriptions. Vraiment, ils me proposent toujours des magnifiques.
Il y a plein de choses, mais vous reviendrez en parler parce que là, on est à la fin de cette entrevue, Isolde.
D'accord.
Et puis, on va partir sur un petit bout de la danse macabre, non pas pour vous accompagner de façon macabre, mais parce que c'est...
Le festival va se terminer avec les violons du roi qui vont être web diffusés à partir du Palais Cannes de Québec. Voilà.
Ça, c'est bien. Super.
Merci
beaucoup.
Merci, Isolde.
Et puis, continuez, lâchez pas, hein, que personne ne lâche.
Je vous le promets.
Merci beaucoup et à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir à tout le monde.
Merci. Alors, c'est sur cette merveilleuse musique qu'on va vous dire au revoir, puisque c'est la fin de l'émission. Donc, merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci Maurice Bolduc pour les musiques. Et puis, merci à nos invités. Alors, Isolde Lagacé.
Oui, et puis à Éric Giroux, qui le directeur responsable de la recherche et des collections de l'Éco-Musée du Fiermonde.
Deux personnages très intéressants et qui avaient plein de choses à nous raconter.
Donc, allez-y, cette exposition, c'est jusqu'au 18 avril.
Et Carnaval des animaux, allez-y aussi, allez voir.
Quand j'ai vu le titre, je me suis dit, mais c'est quoi ça, Carnaval des animaux?
Tu connais pas de Saint-Saëns?
On a passé une de ces pièces en début de semaine au Festival Classique à Arlette.
Oui.
Souvenir.
Alors, souvenir. Eh bien, merci
à
toutes.
Ça répondait à ta question.
Merci à toutes et tous. En tout cas, c'était bien d'entendre des passionnés nous parler. Mm-hmm. Donc, au revoir et puis à demain. On vous laisse terminer. Accompagné. Avec la danse macabre.